Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, bonjour nos auditeurs et auditrices.
Bien, moi je vais commencer par les auditrices, bonjour.
On te reconnaît bien là.
Et puis les auditeurs ensuite, et puis Nicole. Et Roger le dit le chef à la fin. Après aujourd'hui, tu vas dire à la fin, puni.
Eh oui, bonjour ça à toutes et à tous. Mais bon, on arrive bientôt au terme des émissions de l'année, de la saison.
Ça sent l'été, les
jeunes filles courvêtues, Denis, ça va t'émoustiller, je sais bien. Alors le programme, évidemment. Le programme, évidemment, vous avez l'actualité internationale et nationale du rugby à 13 dans le monde, oui, puisque la vie internationale. Nous ferons un spécial barrage pour l'accès aux demi-finales du championnat de France élite 2 et puis élite 1, décidément. Je voudrais que Villerien Aragon soit en élite 1 déjà. Élite 1. Et quelques infos par-ci par-là, vous verrez. Et on parlera également de la Super League avec la fantastique victoire des Dragons catalans qui ont atomisé les Anglais de Wigan, le leader 48-0. On parlera de la suspension aussi de Joël Tonkip, qui a pris 4 matchs dans la cafetière. On ne sait pas, Zadarker qui a eu 4 rouges, je ne sais pas, peut-être que Denis, c'est le tarif qu'il a eu.
Deux matchs, Zadarker.
Ouais, celui qui peut... c'est bien les Anglais, ça, celui qui peut...
On n'en discutera pas après, Roger.
Allez. D'accord, on va pas être d'accord. D'accord, oui, mais c'est bien, d'accord. Ensuite, nous parlerons de la NRL avec la première défaite de Penrith dans des conditions étranges, bien étranges. Tout ça, nous en parlerons. Voilà, Denis, on va commencer donc par l'actualité internationale du rugby à 13.
Oui,
j'ai déjà votre invité, par contre.
Il a compris l'invité. J'avais dit au...
Non, ne tapez pas sur l'invité, c'est moi qui l'ai appelé.
Ah bon, non, Nicole, je ne peux pas taper sur vous. Vous comprenez.
Bah ouais, mais tapez pas sur ce brave monsieur, c'est tout, il a rien fait.
Bon, alors, ça, des caresses, je ne vais pas vous taper dessus, Nicole. Allons, voyons. Bon, mais tant pis, on va commencer par lui, alors. N'est-ce pas, Denis, tant pis.
Allez.
Voilà. Monsieur Bassetto, bonjour.
On s'adapte. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, bon,
bonsoir, monsieur,
on va voir un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Bonsoir.
Hein. Vous êtes disponible, c'est très bien. Alors, monsieur Bassetto, demain, c'est le grand jour. Ça passe ou ça casse? Allô? Oui, monsieur Bassetto, est-ce que vous entendez?
Vous n'avez pas entendu? Non, je ne vous entends plus.
Ce que je propose... je vais laisser Denis poser des questions. Moi, je vais raccrocher parce qu'on a des problèmes d'insert. Comme ça, Nicole pourra le basculer. Elle peut passer un peu de musique en attendant qu'elle règle tout ça. Moi, je vais raccrocher. Elle pourra mettre Monsieur Bassetto sur le bon insert. Et Denis, tu feras l'interview parce que bon, on a quelques petits problèmes. C'est d'accord, Nicole?
Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il m'entend, moi?
Non. Oui, je vous entends.
On y va, monsieur Bassetto, sans plus attendre. On sait que vous êtes très occupé, je me doute, en ce moment-là. Oui, alors Roger, la question que vous posez, Roger, la première question, c'est, voilà, demain, match important, puisque, bon, ben, ça passe ou ça casse demain, puisqu'on rentre dans les barrages.
Oui, c'est vrai que demain, c'est un match important pour nous, hein. Surtout que le match retour à Avignon était venu gagner, 20-16 à l'aiguille. Et c'est vrai que les joueurs vont reprendre une revanche demain. Et cette revanche, bien sûr, il faut qu'on la gagne pour aller en demi rencontrer Carcassonne à Domecq. Voilà, mais c'est vrai que pendant ces 3 semaines, bon, il y a eu un petit arrêt, bien sûr. Hein, il a fallu... s'organiser avec les entraînements, la charge de travail, tout ça. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais le travail a été axé surtout sur le secteur offensif, où c'était notre point faible jusqu'à présent. Hein. Et là, c'est vrai que au secteur offensif, ça va un petit peu mieux. Et surtout, on a travaillé aussi notre défense. Bon, notre défense qui faut qu'elle reste comme elle est. Hein. On est à 83-84% d'efficacité en défense. Et je remercie Anthony Rea d'être venu pendant deux fois dans la semaine dernière, dans les deux dernières semaines, pardon, nous faire des séances de lutte où les joueurs vont pouvoir s'en servir pendant les matchs. Voilà.
Oui, 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 parce que bon, c'est vrai que bon, vous aviez quand même, vous l'avez dit, une défense extrêmement efficace. On l'avait vu lors du derby contre Carcassonne, voilà, oui. À Domecq, où vraiment, bon, il y avait eu de grosses défenses et qui avaient annihilé les attaques des deux côtés. Et bon, c'est vrai que vous êtes simplement l'équipe qui, au niveau défensif, aviez le mieux résisté au paquet d'avant Carcassonne.
Oui, ouais, c'est vrai que contre Carcassonne, il faut le dire, comme c'est moi qui fais les statistiques du club, c'est notre défense qui nous a fait gagner, hein, puisque quand même, on fait quand même 21 fautes. Et 21 fautes, en principe, dans un match, en principe, on ne doit pas le gagner, le match. Mais c'est vrai que notre défense et ce groupe-là vit bien, en plus. Il faut le dire, hein, on a une très très force de caractère dans cette équipe. Et je pense qu'il faut garder cela jusqu'au bout.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, au début de notre entretien, la défaite contre Avignon qui avait eu face à cette équipe face justement à cette équipe de SO Avignon. Mais je dirais presque que c'était dans un autre temps, puisque c'était, il me semble, hein, moi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, depuis le 13 de Limoussin a parcouru pas mal de terrain de façon positive, puisque quand il y avait eu cette défaite, vous étiez un peu certainement dans ce moment de la saison, toujours, vous n'aviez pas réglé vos problèmes d'effectifs, etc. Donc vous n'étiez pas dans votre meilleur moment de la saison.
Non, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'on a récupéré beaucoup d'effectifs. Demain, c'est vrai qu'on est au grand complet, hein, à part Romain Péot et Florian Bousquet qui sont blessés de longue date. Voilà, tout le monde est sur le pont. Et voilà, et ce soir, Maxime Gressec va arrêter l'équipe. Hein, je voulais vous donner l'équipe, mais je ne l'ai pas. J'ai un groupe de 27 joueurs. Mais c'est tout. Oui, mais il faudra faire avec.
C'est tout l'effectif.
Ouais. C'est vrai qu'après, il va y avoir des déçus, hein, mais bon, il faut qu'on prenne 18 joueurs, hein, sur un effectif de 25-27. Et voilà, c'est vrai que le travail du staff qui a été réalisé ces deux dernières semaines. J'espère que demain les joueurs vont le montrer sur le terrain. Voilà.
Ouais, alors, bon, j'ai l'impression, hein, vous allez me dire où vous en pensez, c'est que vous avez eu une première partie de saison difficile, même. Bon, et puis, bon, vous êtes arrivé à vous accrocher, vous avez eu quelques défaites surprenantes, des victoires un peu compliquées. Et puis, depuis maintenant, avant le derby déjà, hein, avant le derby déjà, vous aviez enclenché, vous êtes rentré sur une bonne période, et depuis, j'ai l'impression que le 13 de Limoussin n'est jamais aussi fort que quand il est fort au printemps. Quand c'est l'inverse, quand il est fort très tôt dans la saison, souvent, la fin de saison est plus compliquée. Là, je pense que cette année, vous faites la saison dans le bon sens.
Eh oui, là, mais c'est vrai que ça s'explique. C'est vrai qu'on s'est réunis avec le staff. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessés. On a eu les 5 ou 6 premiers cycles juste avant le match de retour. C'est vrai qu'on a eu sur des charges, tout ça, un petit peu quelques soucis. Et on s'est tous réunis autour d'une table. Et c'est vrai que depuis le match de Palo, on est dans le vert et on est bien. Le niveau de forme et de fatigue des joueurs sont très bien. Voilà. C'est vrai que c'était important de corriger ça, parce que c'est vrai que c'était pas normal qu'on ait perdu des matchs à Toulouse ou à Albi. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis autour d'une table et on a trouvé d'où ça venait. Voilà.
Oui, donc, contrairement à d'autres équipes qui sont peut-être dans une phase où, qui dans cette période de la saison semble peut-être marquer le pas, vous, pour moi qui suis un observateur extérieur au club, vous êtes dans la bonne dynamique, la dynamique qui peut vous amener au punch-out.
Ouais, ouais. Après, voilà, il y a encore du chemin à faire. Enfin, du chemin à faire, il n'y a que deux matchs. Déjà, faut déjà prendre cette équipe d'Avignon au sérieux et surtout la respecter, hein, demain. Puisque dans cette équipe, il y a quand même des joueurs qui ont du talent, hein, à tous les postes. Hein. Et surtout que les postes qui vont être très importants, hein, pour moi, c'est l'axe, hein, c'est 9-7-6. Et l'arrière, hein. Et je pense qu'à ces postes-là, Avignon sont très forts.
Alors, puisque vous parlez d'Avignon, est-ce que vous pensez, sincèrement, hein, M. Bassetto, est-ce que vous pensez que le fait qu'ils aient perdu, mais ça c'est leur problème, hein, Tony Gigot et puis leur pilier qui partit en Angleterre, Moran, voilà, est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour vous finalement?
Moi je dis que non, parce que
de façon plus générale à l'ensemble de l'équipe.
Oui, non, moi je dis non, parce que c'est cette équipe d'Avignon quand même a des jeunes derrière, ça travaille dur, et Tony Gigot et Pat Moran, je pense qu'ils ont laissé des traces. Ils ont montré le chemin de cette équipe et je pense qu'ils vont arriver un peu plus gonflés que ce qu'on pense. Alors c'est pour ça qu'il va falloir faire attention, hein, surtout les respecter, hein, surtout pas dire ah, ça y est, c'est bon, on est en demi. Parce que moi je peux vous dire, on n'y est pas encore, il y a 80 minutes et je sais que cette équipe d'Avignon, elle s'accroche jusqu'au bout.
Oui, cette année, aujourd'hui, bien malin, celui qui peut prétendre parmi les six, hein, qualifiés, qui sera champion, parce qu'en plus, c'est une saison particulière où il n'y a qu'un seul, un seul trophée, une seule compétition, il n'y a pas l'alternance comme d'autres saisons où il y a la coupe, etc., qui viennent, avec des matchs qui viennent perturber, enfin, pour certains qui sont qualifiés, etc. Donc là, c'est trois matchs qu'il faut enfiler les uns après les autres. Donc aujourd'hui, n'importe lequel des six, je pense que vous êtes d'accord, peut gagner le titre de champion. Alors, par contre, par rapport à Avignon, il y a quand même un système de jeu. C'est une équipe qui joue un rugby complet. Bon, il y a Renaud Guigues, vous avez Maxime Grissek, eux, ils ont Renaud Guigues aussi. Et c'est vrai que cette équipe d'Avignon, elle peut être très dangereuse dans tous les compartiments du jeu et dans tous les coins du terrain.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai qu'Avignon, on les compare un peu à nous, hein, ils ont la même philosophie du jeu. Le truc qu'ils ont en plus, je pense qu'en attaque, ils sont vachement dangereux. C'est une équipe qui joue très très vite. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très très attentif à des joueurs comme Renaud Gant et surtout des joueurs comme Louis Jouffré ou Jack Penn qui peuvent faire la différence, hein, et ainsi qu'Olivier Arnaud. Hein. C'est des joueurs qui sont assez complets sur le terrain. Hein. Et il va falloir faire attention. Et surtout qu'ils ont de bons jeunes.
Allez-y.
Ouais, je disais que surtout qu'ils ont un bon pôle à Salon. Et ces jeunes méritent d'être dans cette équipe. Hein. Des joueurs comme Baptiste Avis, Delors, Dortz Hans, Vincent Conta, tout ça. C'est des joueurs assez complets. Qu'il va falloir se méfier.
Après, si on regarde quand même les points forts et les points faibles, dont je suis d'accord avec vous, l'équipe d'Avignon, elle a un jeu très complet, elle fait vivre le ballon, etc. Je pense que, moi, il y a un point fort que vous avez, je pense que vous leur êtes supérieur au niveau, surtout là, avec, en ayant récupéré la totalité de vos avants, vous êtes supérieur au niveau de votre paquet d'avants. Et c'est peu, alors, et sans dénigrer les avants d'Avignon, évidemment, mais c'est peut-être oui, là monsieur. Où vous pouvez les fatiguer, les user et les empêcher peut-être d'être performants offensivement.
Oui, c'est vrai qu'après on a un gros paquet d'avant et comme on l'a dit au début, hein, notre point fort c'est notre défense et c'est surtout d'être ensemble. Demain, on va demander aux joueurs d'être ensemble, d'être disciplinés, d'avoir une fierté de porter le maillot de Limoux 13 et surtout avoir du plaisir, jouer au rugby et je pense que ça passera.
Et alors, également, bon, vous avez parlé que lors de ce derby, quand même, vous aviez commis 26 fautes. Bon, ça, c'est vrai que c'est peut-être un point qu'il faudra effacer de même, parce que c'est vrai que dans cette équipe d'Avignon, leur rendre trop vite des ballons, c'est un peu comme contre les Catalans, c'est très ça. Dangereux.
Voilà, je vous dis, c'est... Il va falloir éliminer toutes ces petites fautes, tous ces détails qui peuvent faire perdre un match, et surtout être patient en attaque, hein, ne pas s'affoler et surtout de rendre des munitions. Voilà.
Alors moi j'ai une question à poser. Et
est-ce que vous n'avez pas le risque de penser à cette demi-finale et face à Carcassonne, au derby qui s'approche?
Non, les joueurs, on prend les matchs après les autres. D'abord, il y a cette rencontre demain, et après, on pensera à Carcassonne. Mais pour l'instant, moi, on n'y est pas. Voilà, il faudra se méfier de cette équipe qui monte en puissance, même si c'est nous aussi, on monte en puissance, je pense que, moi, pour moi, c'est du 50-50 demain. Voilà.
Oui, mais après, quand même, la perspective de venir matcher Carcassonne 13 à Domecq en demi-finale, je suis sûr que c'est une source de motivation supplémentaire pour le 13, pour vos joueurs et pour le club du 13 de Limoussin. On sait que le 13 de Limoussin est toujours super motivé quand il s'agit d'affronter Carcassonne. Ça, c'est l'histoire de notre sport.
C'est l'histoire, oui. Non, mais c'est vrai que oui, les joueurs, bien sûr, veulent venir à Domecq faire la demi-finale. On ne veut pas s'arrêter demain. C'est pour ça que, voilà, il faut être sérieux, il faut prendre ce match et respecter cette équipe d'Avignon.
Denis.
Oui, Roger.
Moi, je voudrais poser une question, si je peux y arriver. Monsieur Bassetto, s'il m'entend.
Oui, je vous entends.
Que pensez-vous de ces nouvelles règles, notamment des 6 tenues de plus?
Ben, écoutez, le six game, bon, il faut faire avec. Hein. Ça permet à notre jeu d'aller un petit peu plus vite et d'avoir un petit peu plus de spectacle. Mais c'est vrai que quand on prend un six game dans notre ligne rouge qu'on appelle, hein, dans notre zone rouge ou dans notre zone verte quand on attaque, c'est vrai que pour défendre, surtout que quand on prend au quatrième ou cinquième tenue qu'on revient au premier, ça nous fait au moins 12 chaînes à défendre, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester concentré et surtout de ne pas faire de faute.
Très bien. D'accord. Bon,
on va
vous remercier.
Roger, j'ai encore une question à poser à M. Bassetto. Je ne sais pas qui sera l'arbitre demain, peut-être vous le savez.
Alors, c'est Stéphane Vincent, l'arbitre.
D'accord. Et est-ce que je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que, compte tenu que les arbitres français n'ont pas accès à la vidéo, enfin, aux trucs les plus modernes, comme on voit en Australie ou en Super League, est-ce que quand même, compte tenu qu'il y a, en ce moment, il y a peu de matchs, est-ce que ça serait pas été intéressant que la fédération mette, à partir des barrages, là, deux arbitres centraux, comme ça avait été essayé l'année, la saison passée ou il y a deux saisons, je ne sais pas. Est-ce que ça ne serait pas pour renforcer quand même, parce que pour les arbitres français, souvent on les critique, mais ils se retrouvent seuls, sans beaucoup de moyens. Et c'est vrai qu'avec deux arbitres dans notre jeu qui va si vite, peut-être. Enfin, moi, c'est mon opinion, j'aimerais connaître la vôtre.
Oui, oui, c'est vrai que deux arbitres, ça serait bien. Je pense qu'on a fait déjà l'expérience. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est-à-dire que il faut que les arbitres s'entendent, surtout dans le jeu. Et surtout qu'avec ces nouvelles règles, je pense que ça devient un petit peu compliqué pour eux. Et c'est vrai que c'est pas les arbitres d'NRL et de Super League, hein, c'est des arbitres qui font comme nous, qui vont au travail, qui travaillent la journée. Et moi je dis que je leur tire le chapeau aux arbitres. Hein, c'est vrai que c'est souvent, ils font des erreurs, mais tout le monde ne fait des erreurs aussi. Hein, c'est pour ça qu'il faut les soutenir dans ces moments-là. Mais c'est vrai que deux arbitres seraient bien, mais voilà, le problème, c'est qu'il faut vraiment aller dans le même sens. Et je pense qu'encore, on a du travail à faire. Voilà.
Oui, et peut-être deux arbitres d'un but aussi, ça serait pas mal.
Oui, voilà. Bon, après, ouais, les arbitres d'un but, apparemment, c'est ce qui devait, la Fédé devait mettre en place. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas assez d'arbitres. Mais bon. Mais c'est vrai demain, il y a quand même un seul match. Je pense qu'on aurait pu organiser quelque chose, oui.
Allez, moi la dernière question, M. Bassetto, si je vous dis que je pense quand même que, alors je ne veux pas vous mettre de la pression, mais que vous êtes quand même, à mes yeux, légèrement favori. Alors je ne suis pas un bon pronostiqueur, mais je pense quand même qu'en jouant à Limoux, avec le retour un peu du public, même si ça ne va pas pouvoir être 5000 personnes, mais il va pouvoir y avoir quand même un petit public, etc. Bon, on va dire quand même que, bon, vous êtes, allez, on va vous mettre quand même moi je vous mettrai à 55-45 en votre faveur.
Oui. Écoutez, on verra demain. Il y a 80 minutes à faire, mais voilà, je souhaite, voilà. Bien sûr, hein, je souhaite qu'on gagne, mais voilà. Coup d'envoi demain à
15h30.
Voilà. déjà il y aura en finale un club baudois. Bon, ça
c'est sûr.
Voilà,
c'est sûr.
Bon, c'est bien. On verra. Très bien, merci Monsieur Bassetto. On est heureux de vous avoir. Eh bien, on espère qu'on vous aura la semaine prochaine pour la demi-finale.
Denis.
Ok,
Denis.
Ben merci de m'avoir invité. Merci Denis, beaucoup à Denis. Tout le monde.
Le rappelons
oui,
que ce match,
allez, c'est revoir,
le suivre sur Radio Marseillette, puisque nous le commenterons en direct.
Exactement, Roger, exactement.
Voilà, allez, Nicole, on va faire une bien, petite alors, pause. On va faire une petite pause pour nos partenaires, et on se retrouve juste après pour la suite de 13 Passions.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Restaurant La Barbacane, depuis ses roseries jusqu'aux vitraux, dans un cadre de charme et d'élégance, le chef de cuisine Jérôme Rion met l'accent sur une cuisine de tradition renouvelée avec raffinement et subtilité, offrant un panorama enchanteur sur les jardins de l'hôtel et les remparts de la cité. Venez déguster un dîner romantique aux chandelles ou en famille, accompagné d'interprétations musicales au piano.
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'un bon conseil pour vous aider et vous soutenir au quotidien? Le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex, expert comptable, avenue Claude Bernard, à côté du conseil général à Carcassonne, est à votre écoute. Les missions d'assistance et de conseils les plus étendues vous sont proposées dans les différents domaines de la gestion d'entreprise, comptabilité, droit fiscal, droit des sociétés, droit social, création et reprise d'entreprise. N'hésitez pas à contacter le cabinet Jean-Marc Guillaume Sinex au 04 68 71 19 36.
Assurance Jérôme Dupin, agent général Allianz, pour une solution simple et idéale à tous vos besoins, auto, habitation, santé, financier. Assurance Allianz, cabinet Ten et Dupin, 295 chemin de Mâquins, ZI Labourguette à Carcassonne, près de Décathlon.
Allez, go, c'est reparti. Alors juste un petit mode d'emploi pour les nouveaux inserts. Il faut bien attendre que le premier interlocuteur ait fini de parler avant de prendre la parole. S'il y a deux inserts qui parlent en même temps, ça se télescope et personne n'entend rien.
D'accord.
Ouais, on a vu qu'il y avait un décalage, en effet.
Et là, moi, j'attends plus.
Alors,
oui, alors on va faire la suite.
Allez.
Parce que moi j'ai beaucoup de problèmes pour entendre tout le monde. Alors Denis, on va passer à la deuxième partie qui en fait devait être la première. Mais c'est pas grave. L'actualité internationale résiste, Denis.
Oui, l'actualité internationale résiste qui nous est offerte par notre ami Thierry. Donc on va démarrer par... du rugby à 13, du rugby league aux Jeux Olympiques, point d'interrogation. C'est le désir du nouveau président de la Ligue internationale de rugby à 13, de l'IRL, M. Troy Grant. Alors c'est pas n'importe qui, M. Troy Grant, puisqu'il était ancien ministre de la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. C'est une personnalité non seulement politique, mais qui aime l'ordre, et donc, puisqu'il était ministre de la police. Et donc là, il a deux projets, il veut mener à bien deux projets. Le premier, avant de parler des Jeux Olympiques, le premier projet qu'il a mis sur le feu, là, et sur lequel l'International Rugby League travaille, c'est, on en avait déjà parlé, mais ça se précise, c'est la volonté de l'International Rugby League, que la prochaine Coupe du Monde en 2025 se déroule en France. Donc, ils veulent, lui, il a dit clairement, nous avons changé de vision pour l'instant, puisque jusqu'à présent, nous faisions un appel d'offres et nous donnions l'organisation de la Coupe du Monde au pays qui offrait le plus de possibilités financières, hein. Donc qui donnait plus de rentabilité, qui assurait le plus de rentabilité à cette compétition, rentabilité financière. Or là, il dit, on change de vision, et pour l'instant, là, pour les 2025 et 2029, il souhaite de 2025 la France, puisqu'il dit l'objectif pour 2025, c'est de reconstruire le rugby à 13 en France, grâce à la Coupe du Monde, et de faire en sorte que la France devienne un pays compétitif au niveau international. Nous avons besoin que la France, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles soient aussi compétitifs que les équipes du Pacifique. Et voilà, donc nous travaillons en profondeur à ce projet. Donc voilà, donc ça c'est une déclaration très importante et très intéressante. Absolument. Pour le rugby à 13 français, mais éventuellement pour le mouvement 13 international, mondial, que cette déclaration. Donc, alors, on verra, est-ce que c'est possible? On sait que la Fédération française voyait cette hypothèse, d'un bon oeil, mais bon, après, il faut être capable de l'organiser, de le mettre en place. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement du rugby à 9. Sur deux points, toujours ce monsieur Trang, le nouveau président de l'IRL, il voit le rugby à 9 comme un outil de développement dans de nombreux pays. Il estime, et il avait raison, hein, que aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que chez les jeunes, la possibilité de pratiquer le rugby à 9, ça permet d'avoir besoin de moins de joueurs, etc., de pratiquer un rugby beaucoup moins physique, etc., donc de permettre aussi d'avoir un peu mieux, d'améliorer la technique, etc. Donc, moi, je partage cette idée que le rugby, ce qu'il appelle le format abrégé du jeu, c'est-à-dire le rugby à 9, voilà, il estime, avait raison, que ça peut permettre à de nombreux pays qui essayent d'implanter le rugby à 13, mais ce n'est pas évident, de créer des clubs entiers avec toutes les structures, avec des équipes à 13 joueurs, parce que pour avoir 13 joueurs, il faut avoir 25 ou 30 joueurs. Hein, donc voilà, donc le développement du rugby à 9, donc ça, après lui, ça devrait permettre au rugby league, au rugby à 13, progressivement d'avancer plus vite et de s'implanter plus vite dans de nombreux pays. Et ensuite, eh bien, ça pourrait ouvrir une porte pour le rugby à 9 aux Jeux Olympiques, puisque il dit, voilà, Brisbane devrait accueillir les Jeux Olympiques de 2032, dans tous les cas, l'Australie, vous savez que l'Australie a eu Sydney, qui a eu les Jeux Olympiques, là, ça serait la capitale du Queensland, Brisbane, qui s'est positionnée pour 2032, et comme il n'y a pas, dans cette période aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de villes qui se positionnent pour accueillir les Jeux Olympiques, compte tenu des coûts en jeu, il est fort probable que ce soit Brisbane qui soit la ville qui accueille les Jeux Olympiques en 2032, et il dit, M. Grant dit, il ne serait pas admissible que dans une ville comme Brisbane, qui est peut-être la capitale du rugby à 13 mondial, peut-être même plus que Sydney, on va dire, eh bien, on ne puisse pas, s'il y avait les Jeux Olympiques, le rugby à 9 n'y figure pas. Et pour ça, évidemment, ça nécessite auparavant qu'il y ait un nombre suffisant, ne serait-ce qu'un sport de démonstration, hein, puisque vous savez que dans les Jeux Olympiques, il peut y avoir des sports de démonstration en test, etc., et ce n'est qu'après qu'ils peuvent devenir des sports olympiques officiels. Donc, c'est son deuxième objectif, mais pour ça, il dit, il faut évidemment, s'il y a 5 ou 6 pays à présenter, où il faut qu'il y ait un maximum de pays qui pratiquent ce rugby à 9 à travers la planète, et donc c'est l'International Rugby League, la Fédération Internationale de Rugby à 13, va avoir ce deuxième projet, c'est-à-dire développer le rugby à 9 dans de nombreux pays. Donc voilà, pour cet aspect très important de cette déclaration très importante du président de l'International Rugby League. Également en Écosse, au niveau de la Ligue de rugby à 13 écossaise, vient de mettre en place un plan pour relancer le rugby à 13 en Écosse. Ils estiment que ils veulent profiter de la sortie des divers confinements, etc., et de cette perspective qui pourrait permettre, il semblerait que la pandémie pourrait en 2022 peut-être s'estomper. Eh bien, ils ont quand même, ils disent qu'ils ont des jeunes qui s'adressent, qui se tournent vers eux, ils veulent être en capacité de les accueillir, et donc ils veulent constituer de nouveaux clubs au niveau écossais, et leur projet, ce serait même de faire deux divisions, une nord dans le nord de l'Écosse et une dans le sud, de l'Écosse. Voilà, avec évidemment le 13 frais, le 13 masculin, le 13 féminin, développement de. Bon, l'idée étant de. Et là aussi, avec le rugby à 9, eux aussi estiment qu'ils sont sur la même longueur d'onde que l'International Rugby League, en disant que le rugby, la pratique du 9, pour du 9, comme disent les anglo-saxons, pourrait être utile pour le développement de. Et puis pour le développement du rugby à 13 dans les clubs écossais, puisqu'au niveau international, l'Écosse sera la Coupe du Monde, et aussi bien en masculin qu'en féminin, qu'en fauteuil. Et donc, ils espèrent faire une bonne Coupe du Monde, et puis ensuite, eh bien, pouvoir développer, augmenter le nombre de clubs au niveau du pays écossais. Voilà, et dernier point, c'est alors au niveau de la Nouvelle-Zélande, là aussi ils ont un gros projet, alors qui est bon, sur lequel un gros projet qui sont en train de que la pour renforcer et adapter le sport néo-zélandais, et donc ils travaillent alors. En langage du pays là-bas, ça s'appelle alors Ngaringa Awina. C'est une initiative qui est conçue pour soutenir une capacité accrue des réseaux du rugby à 13. Et donc, ils vont y consacrer plus de 750 000 dollars à cette opération, enfin, ce grand projet. Alors, où il y a quatre, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est assez complexe, mais les quatre principaux composantes de ce projet Ngaringa-Wina, c'est la gouvernance et l'administration, l'amélioration des compétences des districts, des clubs en matière de gouvernance, etc. Sensibiliser, apprendre et faire de l'apprentissage culturel, avec des ateliers dans la langue maternelle des pays, etc. Le développement du jeu, l'amélioration des techniciens, des entraîneurs, des arbitres, des officiels pour les matchs, etc. Et développer la commune, que le rugby à 13 serve à développer la communauté et le bien-être, c'est-à-dire la communauté et le bien-être, c'est-à-dire être ensemble, être solidaires les uns des autres. Voilà, donc. Et c'est ce projet global que les dirigeants de la Fédération néo-zélandaise de rugby à 13 essayent de mettre en place au plus profond du pays néo-zélandais. Voilà, Roger, donc on va remercier Thierry de nous avoir fourni ces informations internationales que nous nous faisons plaisir de relayer sur l'antenne de Radio Marseillette.
Voilà, bon, Roger. On va attaquer la troisième partie. Oui, on va parler de la Super League, hein, avant de parler de NL. Hein. Alors, mea culpa, et je me mets à genoux pour te dire que tu avais raison, Wigan, mais honnêtement, je n'étais pas le seul à penser que Wigan, quand même, le grand club de Wigan, le leader, comment allait-il prendre 50 points à Perpignan sans en marquer un seul? Une équipe de Wiganaise d'une faiblesse extrême, de très bons catalans, c'est vrai, mais enfin quand même, bon, Wigan à la Super League, un club phare à la Super League. Denis, que s'est-il passé?
Oh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une excellente équipe des Dragons catalans. Donc, c'est vrai qu'et en rugby à 13, tu sais, Roger, quand tu... Bon, tu le sais bien que toi aussi bien que moi, que quand tu prends l'eau, eh bien tu prends l'eau. Bon, d'un côté, on avait une équipe qui a fourni un match exemplaire, magnifique dans tous les compartiments du jeu. Et c'est vrai, on a eu en face une équipe qui a été dominée, mais qui a été battue devant, qui a été complètement battue, laminée, qui a explosé complètement aux avant-postes. Alors, c'est vrai que, bon, Wigan, pour être tout à fait honnête, il leur manquait quelques pièces maîtresses. C'est vrai, mais au Dragon catalan, contre Saint-Hélène, la semaine avant, il manquait Saint-Tomkins, il manquait Langui. Bon, donc voilà, Bon, et donc on va pas. D'ailleurs, Adrien Lame, l'entraîneur de Wigan, ne s'est pas caché derrière les absences. Bon, je pense que cette équipe de Wigan, on l'avait vu déjà la semaine précédente, elle avait gagné à Salford, qui quand même Salford est avant-dernier au classement. Hein. Elle avait gagné d'un tout petit point. Et cette équipe de Wigan, elle a montré quand même ses limites devant une équipe catalane qui a été impressionnante. Beaucoup plus impressionnante, elle est montée quand même d'un très haut niveau par rapport au match de Sainte-Hélène, où déjà elle avait fait un grand match face à un adversaire qui avait été plus résistant que Wigan. Mais là, elle a encore progressé en une semaine. Et bon, c'est peut-être un des matchs les plus... c'est vrai qu'alors, faut pas se faire d'illusions, sur l'ensemble de la saison, il n'y aura pas 46 points d'écart entre la valeur les 46 points d'écart ne reflètent certainement pas le niveau d'écart entre les deux équipes. Hein. Enfin, c'est vrai. Mais on sait que c'est ça le rugby à 13. Le rugby à 13, quand tu es meilleur que l'autre, souvent, tu le balais, tu l'écrases. Et donc, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Brutus. Et moi, ce que je trouve, c'est que il y a un joueur qui pèse de plus en plus dans cette équipe, c'est Malonnet, qui s'engage, qui attaque la ligne, chose qu'on ne le voyait pas faire depuis qu'il était arrivé. Il conduisait le jeu, mais là, il prend des risques, il va chercher la ligne de défense adverse. Et bon, à partir de là, les avants arrivent. Bon, moi, je trouvais que... c'est vrai que ça a été un grand match des Dragons catalans, quoi, tout simplement.
Et puis, on a remarqué la bonne tenue, l'excellente prestation de Mourgue. Il a été génial, ce garçon. Bon, c'est un joueur d'avenir. On aurait peut-être eu un peu plus de temps.
Oui, Mourgue, bien sûr, qu'il a fait un match, la guerre aussi, Julien aussi, voilà. Mais les deux jeunes, les deux nouveaux, Mourgue et Laguerre, qui évoluaient à des postes qui n'étaient pas les leurs, parce que Laguerre, on l'a mis à l'aile puisque Yaha a été blessé, donc on l'a mis en position d'ailier. C'est vrai que ça doit être une des premières fois qu'il évolue à ce poste. Bon, c'est vrai qu'en première période, on voit qu'il n'est pas habitué à jouer à l'aile. Hein, il repique un peu à l'intérieur. Et Mourgue, c'est pas... Bon, même s'il est brillant... au talonnage, puisqu'il arrive là, il prend des appuis, mais moi j'aimerais le voir avec le numéro 7 dans le dos, Mourgue, puisque pour moi, mon souci, je voudrais pas qu'on en fasse un numéro 9, quoi, parce que, c'est vrai, alors, après, il défend bien, etc., il n'y a pas de problème, et il prend des initiatives, mais moi j'aimerais le voir, un jour on puisse le voir à son vrai poste, c'est-à-dire en charnière, associé par exemple à Malonnet, et voir un peu, alors peut-être pas, parce que pour l'instant on l'a vu soit à l'arrière, soit au talonnage, j'espère qu'on le verra dans la saison, pas une seule fois, pas 10 minutes, mais sur peut-être un match qu'on lui fera confiance à jouer un charnière. Dans tous les cas, entre Mourgue et Laguerre, là, les Dragons catalans tiennent là deux joueurs vraiment d'exception, quoi, deux jeunes d'exception. Et le rugby à 13 français en général, on va dire, et n'oublions pas Benjamin Julien aussi, qui, Garcia aussi est à un très haut niveau, mais Garcia, on le sait. Benjamin Julien, souvent, on l'a un peu critiqué parfois, il a vraiment, alors peut-être ça y a fait du bien aussi mentalement, mais Benjamin Julien, moi je le trouve très bon en ce moment au poste de seconde ligne.
Exactement. Alors Denis, on va venir au petit incident de la fin. Il y a quelque chose qui m'interpelle. On a vu que Joel Tonkins, il a écopé d'un carton jaune 4 matchs. Il est vrai qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, mais c'est venu à la suite d'une agression d'Ardarker sur Sam Tonkins, un coup de boule, carton rouge, lui il prend 2 matchs, et Joel Tonkins qui prend 4 matchs, alors qu'il a un jaune. Il est vrai que si le carton rouge avait été peut-être en début de rencontre, si l'incident était en début de rencontre, ça aurait peut-être perturbé davantage l'équipe de Wigan. Là, c'était pratiquement à la fin du match, un carton rouge et ils prennent deux matchs de suspension, alors que c'est lui qui a allumé la mèche. Et je répète que moi, ça m'a paru un peu bizarre, mais il est vrai que je n'avais pas à faire ça. Mais enfin, je trouve la sanction un peu lourde. Ça, c'est personnel.
Ouais, bah, Roger, moi, je pense à donner mon opinion en même temps. Hein. Moi, je pense, bon, je reviendrai sur le cas d'Ardaker. Mais Joel Tompkins, on sait que les arbitres n'aiment pas, et en Australie c'est pareil, que les joueurs viennent faire la police et en plus donnent des coups de poing. Et ça, donner des coups de poing, alors je sais que parfois, au niveau des supporters des Dragons catalans, je commence à lire parfois, ah ouais, mais si au rugby à 13, on ne peut plus faire ça, alors, c'est comme ça. Plus le rugby à 13 d'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Le rugby à 13, aujourd'hui, on ne doit pas se faire justice on ne doit pas donner coup de poing. Et donc, je pense qu'en plus, Joel Tompkins a un passé. Et n'oublions pas qu'il sort de 8 matchs de suspension. Donc, il est dans le collimateur de la commission de discipline. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui pèse. Je pense que le passé de Joel Tompkins a pesé dans le fait qu'il a pris 4 matchs. Même s'il aurait gardé ses nerfs, même si c'était son frère qui a été agressé par Ardaker, là je te rejoins tout à fait, je pense qu'il aurait dû, quand tu es un joueur professionnel, tu dois, et que tu mènes 46 à 0, quand ça s'est passé, je ne sais pas s'il y avait 46 ou 42, mais enfin, bon,
oui,
il aurait bousculé Ardaker, mais là il a sorti des coups de poing, et ça on sait, et en plus il a un passé, Joel Tompkins. Voilà, bon,
mais alors,
je pense,
Denis,
que c'est ce qui fait qu'il a pris davantage.
Pourquoi l'arbitre lui a permis le rouge à lui aussi?
Ah ben non, mais parce que, Roger, celui qui occasionne la faute, c'est... celui qui est à l'origine, qui mérite le rouge, c'est Ardaker. Ben, c'est incontestable. Et Ardaker, il prend un rouge et il le mérite. Après, mais le reste, c'est la commission de discipline qui ensuite décide. Voilà, Alors après, pour rapport à Ardaker, c'est certainement un excellent joueur, ça a été un excellent joueur, mais à mon avis, ça fait quand même quelques saisons. Quand j'entends qu'on le compare à Sam Tompkins, que certains disent, ah ouais, c'était le duel entre les deux futurs qui postulent pour la place d'arrière au sein des 13 d'Angleterre, sincèrement, Ardaker, il n'a rien à faire en équipe d'Angleterre. Autant Sam Tompkins, moi je pense que Sam Tompkins, c'est le meilleur arrière anglais, mais Ardaker, il est loin. Avant lui, il y a d'autres arrières qui sont bien meilleurs que lui, et c'est pas d'aujourd'hui. Ardaker, entre guillemets, je vais rester poli, je vais pas... Mais en fait, moi, je trouve pas qu'il a des qualités aujourd'hui exceptionnelles. Il a peut-être été bon il y a quelques années en arrière, mais maintenant, sur le terrain, c'est un méchant, quoi. C'est vrai que c'est un méchant, mais bon... Rien de plus.
Oui, lui aussi, il a de bonnes listes, et bon, on va pas parler en dehors du terrain aussi, mais bon...
Exactement.
Voilà. Alors, bon, c'est en catalan, ils sont au repos, puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Angleterre, ils vont s'en aller à Lille. Bon, là, on ne comprendrait pas d'une défaite en catalan à Lille, qui est le dernier. D'ailleurs, Lille qui vient de changer d'entraîneur. Hein. Alors, on va voir, bon, je pense que là... Ils ont l'occasion de confirmer leur forme et leur état d'esprit là, en catalan.
Oui, n'oublions pas qu'ils sont, ils sont deuxièmes au classement, hein, mais pour l'instant, ils sont à égalité de points avec, ils sont trois à égalité de points, c'est-à-dire Saint-Hélène, les Dragons catalans et Wigan. Donc ensuite, entre guillemets, au goal average tel qu'il est calculé avec la moyenne des points marqués sur les points encaissés, pour l'instant, ils sont deuxièmes derrière Saint-Hélène, mais enfin, je pense que, ils sont premiers ex aequo, et bon, c'est vrai, tu as tout à fait raison, je partage ton avis, que sur Fatali, je pense que Lille, il leur faudra beaucoup plus qu'un changement d'entraîneur pour arriver à accrocher quelques victoires dans cette Super League. Ça montre quand même la différence de niveau qu'il peut y avoir entre le haut niveau de Championship et c'est pour un avertissement pour les Toulousains aussi, et le fond de la Super League. Et je pense que la semaine prochaine, face au Dragon Catalan, même chez eux, ben, si les Dragons Catalans n'y vont pas, ils n'y vont pas en ayant gagné le match avant, ils y vont sérieusement, ça ne devrait pas poser de problème.
D'accord. Voilà, bon, ça c'était pour la Super League. Alors on va passer un petit peu du côté de la NRL. On a assisté aujourd'hui, Denis, toi tu l'as pas vu, à la première défaite de Penrith, mais dans des conditions bien particulières, qui paraissent étranges, mais ça c'est le rugby australien. Penrith qui était amputé de 7 titulaires, 7 joueurs sélectionnés pour le test aux origines qui aura lieu entre parenthèses mercredi prochain, là aussi on va se régaler. Et puis à un moment donné, il y a eu un essai qu'on a refusé pour une PKD à cette équipe de Penrith, alors que la veille, dans la même situation, on avait accordé un essai. Bon, mais là, quand même, quel est le club, Denis, qui s'est amputé de 7 joueurs et non des moindres, qui pourrait résister quand même dans un match? Ils n'ont pas trop mal résisté quand même. Ça paraît bizarre, ça.
Bon, ben oui, je ne sais pas. Là, j'avoue, je n'ai pas vu le match, Roger. Là,
Sept joueurs sélectionnés. Vous
vous rendez compte, c'est plus de la moitié. On sait qu'en période de state origin, les clubs les plus huppés, bon, qui fournissent quand même des joueurs aussi bien à la Nouvelle-Galles du Sud qu'au Blues, qu'aux Maroons et Queensland, bon, eh bien, c'est souvent une période un peu creuse pour eux, où ils font jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu. Bon, Penrith, ça va pas. Ils ont perdu, ça va pas bouleverser. Ça leur fera peut-être du bien, quoi, parce que l'an dernier, ils ont perdu un match, c'était la finale. Bon, cette année, ils auront perdu le match perdu, ça y est, il est passé. Donc maintenant, ils pourront envisager de gagner la finale.
Bon, tu veux dire qu'ils seront champions d'Australie?
Ah, c'est pas sûr, parce que il faudra qu'ils sortent Melbourne, et il faudra quand même, bon, il y aura les Rabbitohs, il y aura les Roosters, bon, il y aura du monde quand même en fin de saison, mais en particulier Melbourne sera là aussi pour défendre son titre. Hein.
Mais c'est la première fois que
Penrith
est amputé de 7 joueurs titulaires. Hein. 7, pas 2, pas 3, pas oui, mais 7. Et non, est moindre.
Et oui, mais bon. Oui, non, mais ça après, bon. Ça ne va pas bouleverser le classement. Ils vont rester premiers, certainement, Roger.
D'accord, oui, d'accord. Melbourne se rapproche. D'accord. Voilà, allez, on va laisser la NRL de côté avec ses matchs fabuleux. Hein, où on se régale, c'est vraiment du bonheur. Demain, vous aurez droit à Melbourne, je crois, les Titans. Là aussi, à voir. Alors, Denis, maintenant, on va attaquer la partie française, quand même, Denis. Il faut y penser, avec ces barrages de demi-finale du championnat de France. Et bon, on en a parlé avec le Limoux Avignon, et puis il y aura Saint-Estève 13 Catalan, Villeneuve-sur-Lot, où tu vas me dire que Villeneuve-sur-Lot, le grand favori du championnat de France, va atomiser Saint-Estève 13 Catalan.
Non, j'irai pas jusque-là parce que parce que j'ai jamais dit que Villeneuve était le grand favori et qui serait
tout
le monde. Je n'ai jamais dit ça.
Ne
modifie pas ce que j'ai dit. Mes paroles. Non, mais par contre, je crois que tout à l'heure, M. Bassetto, le manager du 13 de Limoussin, a bien montré qu'il se méfiait avec raison de cette équipe d'Avignon, et je pense que du côté de Saint-Estève Catalan, on doit se méfier aussi de cette équipe de Villeneuve sur l'autre, qui à présent n'a plus rien à perdre. Ils ont fait une saison, c'est vrai, décevante par rapport aux objectifs qu'ils avaient à début de saison. Quand on a reçu un des coprésidents il y a 3 semaines, je crois, Roger, il nous l'avait dit, hein, ils étaient très déçus, fortement déçus. Mais là, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont à 2 matchs de la finale, à 3 matchs du plan de shot. Tout est possible. Et je pense que les Catalans, dimanche, ils ont intérêt à faire attention, à se méfier, Parce qu'il y a 15 jours, ils ont perdu à Villeneuve, les Catalans. Et donc, ils avaient bien perdu. Donc, bon, après, sur le papier, c'est pour moi, c'est vrai que les Catalans, comme Limoux, me paraissent légèrement favoris de ce barrage. Mais attention, je pense que Avignon, Bassetto l'a dit, et bon, il ne faut pas les enterrer. Et c'est pareil pour Villeneuve. Oui, moi, je crois que tout est possible. Moi, je pense que pour l'instant, tout est possible. Aucune équipe ne peut dire on sera champion de France.
Oui, c'est deux barrages très équilibrés, contrairement à ce qu'on pense. Et là, que tu as dit, c'est sur deux matchs. Et je crois que ça va être très, 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 très indécis. Attention, on pourrait avoir en demi-finale, on pourrait avoir Villeneuve sur retourner Villeneuve sur l'autre, et le CEO à Avignon. Attention, il ne faudra pas rentrer sur le terrain, les clubs qui reçoivent la tête autour dans les étoiles quand même. C'est vrai que c'est... On va se réveiller. D'ailleurs, c'est le match, on en profite, Denis. Vous pouvez les suivre sur Radio Marseillette les samedis, et dimanche à une heure particulière, puisque le match dimanche aura lieu à 17h, c'est bien ça.
Exactement, Roger. Demain, à samedi après-midi, c'est à 15h à Limoux, à 15h30, en direct sur Radio Marseillette, et dimanche à Saint-Estève, en direct également, à 17h, une heure, c'est vrai, inhabituelle pour un dimanche, mais c'est comme ça, donc... je pense qu'aujourd'hui, les équipes qui peut-être sont le moins à l'aise, c'est Carcassonne et Lézignan, qui sont qui doivent jouer dans une semaine, elles ont la pression. Une équipe comme Carcassonne qui a dominé la saison, qui a terminé largement premier, elle se retrouve avec la pression, parce qu'on sait en plus que si jamais ils se font éliminer la semaine. En demi-finale, eh bien, ça sera quand même, on ne retiendra pas, personne ne se souviendra qu'ils ont dominé la saison, qu'ils ont terminé largement premier. On se souviendra qu'ils sont sortis en demi-finale. Donc, les Carcassonnais et les Lézignanais, peut-être un peu moins, mais quand même, ont la pression. Alors que Avignon et Villeneuve n'ont aucune pression. Demain, en barrage, eh bien, on dira, c'était normal. Alors, vu de la saison, finalement, ça, c'est voilà. Mais si jamais ils ne peuvent réussir que des exploits. Et on sait que quand on joue libéré, qu'on joue sans pression, c'est là qu'on peut être le plus performant. Par contre, quand on a la pression, c'est là où parfois, eh bien, on commence à tomber des ballons, on ne fait pas les bons choix, etc.
Oui, c'est vrai, comme tu dis, des fois, quand on a la pression, c'est une mise en bière. Bon. C'est vrai que...
Bien, ouais, Roger. Garde-la oui, pour ton prochain...
pour le grand show, là, oui. Oui, mais c'est vrai que Avignon et Villeneuve sur l'autre, ils ont ce côté et qui pourrait leur rendre énormément service. C'est pas eux qui sont les favoris, en principe, et ils vont arriver de contracter les autres, mais ils devraient être inquiétés. Quant à Carcassonne, comme tu as dit, bon, ils ont... une semaine pour se refaire la série, je sais que il y a eu des réunions et tout, je pense qu'ils ont tout fait pour que les joueurs retrouvent quand même une envie. Et bon, il y en a qui disent qu'ils n'avaient pas trop d'envie. Bon là je pense quand même une demi-finale, c'est quand même quelque chose. Ils vont ces barrages extraordinaires. On va se régaler, Denis, demain. Et après-demain, ça va être du beau, du beau rugby. Eh bien, il nous tarde d'y être.
Et oui, donc, demain. Alors, concernant Carcassonne, oui, c'est vrai, je pense que, soi-disant que tous les jours à l'entraînement, on leur passe la chanson de Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Donc, ça peut peut-être les aider. Et puis ensuite, c'est vrai aussi au niveau des bonnes nouvelles pour les Carcassonnais, eh bien, puisque hier j'ai pu regarder l'émission, l'excellente émission sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Carcassonne 13, parlons de Carcassonne 13, et donc ils ont parlé des deux Bastien, Canet et Bastien Scamilla, qui étaient touchés et qui n'avaient pas joué lors du dernier match face à Saint-Gaudens. Bon, du côté de Bastien Canet, tout est réglé. Il a repris, il est guéri complètement. Donc, du côté de Bastien Scamilla, il est en phase de reprise. Il va partir certainement d'après Jean-François Albert, c'était une question, soit ce week-end, soit lundi, il reprendrait l'entraînement, là, il s'entraîne, etc., mais sans forcer, il est ménagé, mais à partir de lundi, cette semaine, il va pouvoir la faire à fond, et normalement, donc, il sera de la partie, le capitaine Carcassonne, les deux Bastiens seront là, au sein de l'équipe carcassonnaise, pour la demi-finale la semaine prochaine, voilà, donc... ce que je voulais vous dire, oui, on tombe en demain, eh bien on se retrouve à 15h, un peu avant 15h30, pour vous donner la composition des équipes, parce que ce coquin, je ne sais pas si vous avez entendu Roger, mais ce coquin de Maxime Gresset, il n'a pas donné l'équipe, hein, donc...
Bon, ah ben oui, ça on c'est...
Bassetton avec un groupe de 27 joueurs, non, le groupe de 27 joueurs, c'est tout l'effectif de Limoux, quoi.
Oui,
donc, voilà, donc,
j'ai cru qu'il avait donné tous les noms des habitants de Limoux.
Voilà.
Alors, Denis-moi, comme on arrive en fin d'émission, deux informations importantes. Le trophée du Master Brenaroc sera remis en principe à Carcassonne-Thèves en septembre, fin septembre. Peut-être, mais ça c'est à l'étude et c'est pas fait encore. Peut-être ça ferait partie des émissions du jeudi, peut-être c'est à l'étude. Donc bien sûr, il sera officiellement remis, et ouais, peut-être fin septembre ou début octobre, mais plutôt fin septembre. Et on vous tiendra au courant que ça devrait se passer dans un établissement très connu dans la cité de Carcassonne, l'hôtel Donjon, ou la Passerie Donjon, pour ne pas les citer. Ça, c'est pour les informations. Et la deuxième information, je vous rappelle que dans le petit journal, qui aime bien le rugby à 13, tous les mercredis, vous trouvez le programme de Radio Marseillette du week-end sportif, et on les remercie grandement. Voilà, Denis, c'est tout ce que j'avais à dire.
Roger, oui. Puisque tu as parlé du Master Bernard Roque, on va rappeler quand même le classement définitif de ce Master Bernard Roque, parce que Victor Jalbeau l'a tenu jusqu'au bout, au centième de point, donc c'est Carcassonne en effet qui l'emporte avec 32 points pour 18 matchs joués, donc pour 16 victoires. Lézignan est second avec 28 points, à 4 points, pour 18 matchs joués et 14 victoires. Et Limoux est troisième avec 24 points pour 18 matchs joués pour 12 victoires. Donc voilà, c'était la confirmation. Notre Victor Jalbeau National a officialisé le classement définitif du Master Bernard Roque pour cette saison 2020-2021. Voilà.
Alors il m'a confirmé, Denis, que lors de la remise du Master Bernard Roque, il se mettrait le beau costume de sa première communion, une belle cravate, de la brillantine dans les cheveux, et il se laverait les dents, il sera là dans son plus beau. Dans sa plus belle tenue de gala pour remettre le trophée du Master Bernard Roque. Voilà.
Très bien.
On
parle d'être au mois de mort.
Voilà. Eh bien, l'émission se termine, Denis. Hein, on approche, ça l'a fait, ça sent l'écurie pour les 13 productions et 13 passions. Niveau de la saison. Moi, je te remercie, Denis. Je remercie Nicole. Je remercie nos auditeurs. Et auditrice, je vous donne rendez-vous demain pour un week-end trésiste extraordinaire.
Allez, 15h30 demain. Ciao, ciao.
Au revoir à tous.
Ciao, ciao, à demain.
Bye, bye.